Chapitre 4, c'est la suite, on dirait dans les chroniques de Nebuchadnezzar. Cet homme tellement humain, mais qui avait tout à sa disposition, qui se comporte comme un véritable roi plein de sagesse et parfois comme un véritable enfant de 2 ans, qui parfois, quand il n'a pas tout ce qu'il veut, ben, il y a des caprices. Et il faut dire que dans le royaume, il avait tout pouvoir. Et pour cette époque, c'était quand même un premier, quelqu'un qui avait tellement de pouvoir, tellement de gloire, tellement de richesse. On comprend parfois ces crises d'égoïsme. Et puis, comme on a vu dès le début, Dieu, il intervient, c'est presque comme il le traque. Et je dirais ça parce que on a l'impression que Nebuchadnezzar, l'homme le plus puissant de la terre à l'époque de Daniel, se rend à Dieu un peu comme un criminel face au policier qui est traqué. Et c'est Nebuchadnezzar qui le dit en ses propres mots. Et donc, nous commençons dès verset 1. « Nebuchadnezzar, roi à tous les peuples, aux nations, aux hommes, toutes les langues qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. » Il me semblait bon de faire connaître les signes et les prodiges que Dieu suprême a opérés à mon égard. Que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Alors ce sont des paroles assez intéressant pour un roi qui vient de conquérir le monde qu'il connaissait et de faire entrer tous les petits dieux et idoles qu'il a obtenus par la suite de ses conquêtes pour les faire entrer dans son temple dédié à son Dieu. Et maintenant, il vient juste de louer et de donner gloire à un de ces dieux, entre guillemets, conquis par sa grande force. C'est totalement inouï. Ce genre de choses ne se fait jamais. Si vous voulez, c'est comme le président de la République commence à faire des éloges aux parties opposantes, même s'il vient de gagner les élections. C'est quelque chose qui ne se fait pas. Normalement, les vainqueurs se félicitent, pas rendre gloire aux autres. Et là, nous voyons qu'il rend gloire. Et regardez les mots qu'il emploie. Signe, grande puissance, digne de puissance, règne, est un règne éternel. N'oubliez pas qu'il venait de voir ce rêve où il a vu justement les différents royaumes qui passent devant ses yeux dans la forme d'une statue. Et lui qui s'est opposé à cet songe pour construire une statue de son propre imagination pour dire à toute la terre entière, non, c'est moi le grand roi et c'est mon règne qui va durer éternellement. Alors, quel est le changement? Pourquoi est-ce que cet homme, une fois si fier, qui devient maintenant un homme qui fait des éloges à un autre Dieu qu'il n'a pas connu jusqu'à ce moment? Il nous explique. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et sur les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. Encore un peu recherché comme par les polices, si vous voulez. Non, c'est Dieu, en fait. C'est Dieu, en fait, qui l'épouvante, qui lui donne tellement de frayeur dans son rêve. Mais est-ce que c'est parce que Dieu est ce Dieu plein de colère, ce Dieu qui est prêt à frapper ceux qui osent dépasser des certaines limites? Ou est-ce que nous parlons toujours de ce même Dieu d'amour dont Jésus a dit « Il laisse les 99 brebis pour chercher celle qui est perdue. » J'ordonnais qu'en fasse venir devant moi tous les sages de Babylone, afin qu'ils me donnent l'explication du songe. Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens, les devins. Je leur dis le songe et ils m'en donnèrent l'explication. En dernier lieu, se présenta devant moi Daniel, nommé Belshazzar, d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Alors là, ça doit vous rappeler quelque chose. C'est ce même schéma qu'on a vu depuis le début. Le roi qui est interpellé par ces révélations, donc ces songes. Et puis, c'est comme il essaie par tous les autres moyens. Peut-être les autres, ils le savent. Mais je me demande, est-ce que après maintenant trois reprises, est-ce qu'il n'était pas au courant qu'il y a un Dieu dans les cieux? Est-ce qu'il voulait que ça soit peut-être un autre message qui lui permet de faire tout ce qu'il veut, qui lui donne cette liberté qu'il cherche réellement ou ce qu'il pense est la liberté? Tout au long de ce recherche, il savait au fond de lui certainement que la réponse ne vient pas de ces gens-là. N'oublions pas qu'il vient de virer, entre guillemets, plusieurs de ses propres mages, parce qu'ils n'étaient pas capables de lui donner une bonne explication. De la même manière que les réponses de ce monde sont souvent creuses de vraies résolutions. Ah oui, on cherche, on lit, et parfois les philosophies, ils nous font réfléchir, ils ouvrent peut-être quelques portes, mais sans qu'on jamais trouve ce dont nous cherchons. Oh, mais peut-être on sait au fond de nous-mêmes que oui, ce Dieu, il existe bel et bien, mais je veux essayer d'autres, je veux goûter d'autres philosophies, d'autres messages. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être un autre message qui me permettra de faire ce que je veux? Et puis, finalement, il fait entrer Daniel. Daniel que il a renommé Belshazzar après son Dieu. Et souvent aussi, on essaie de masquer Dieu et on dit, oh oui, mais un Dieu d'amour, il ne ferait jamais ça. Ou Dieu, il n'est pas comme ceci. Mais en réalité, ce qu'on fait souvent, c'est ce que nous créons. Un petit Dieu imaginaire à notre guise. Tout ce que nous avons imaginé, mais ça n'a rien à voir avec la réalité enseignée dans le livre qu'il a inspiré, ses prophètes, qui est la Bible. Et finalement, peut-être vous dites, oui, le Dieu d'amour ne ferait ça. Et peut-être vous avez raison, puisque ce Dieu que vous avez inventé, il ne le ferait jamais. Mais le Dieu de la Bible, peut-être oui. Puisqu'il a dit dans sa parole. Belshazzar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, un esprit des dieux saints, et pour qui aucun secret n'est difficile, donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Et voici les visions de mon esprit pendant que j'étais sur ma couche. Je regardais, et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Bon, c'est pas très effrayant. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux et on le voyait des extrémités de la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondantes. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi les branches et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans les visions qui se présentaient à mon esprit pendant mon sommeil, je regardais et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. Certainement, c'est là où intervient la peur. Un des saints, un de ceux qui veillent. Il faut expliquer. Là, nous parlons donc peut-être dans l'esprit de Nebuchadnezzar, c'est un être céleste qu'il ne connaît pas. Mais il a ce sentiment qu'il veille sur nous. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est un ange? L'explication ne nous est pas donnée jusqu'ici. Mais il a ce sentiment qu'on regarde ce qui se passe ici. Et qu'on prend note. Et si peut-être Dieu nous laisse la liberté, le libre arbitre, ça ne veut pas dire pour autant qu'il ferme l'œil sur ce que font les gens et que éventuellement la justice arrive. Ceux qui veillent. Et il cria avec une force et parla ainsi. Abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits, que les bêtes fuient de dessous, les oiseaux du milieu de ses branches, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs. Qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait comme les bêtes l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné et 7 ans passeront sur lui. C'est intéressant qu'on parle d'un arbre qui avait un cœur d'homme et qu'on va ôter ce cœur d'homme pour un cœur de bête. On comprend pourquoi il était un peu confus le matin. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît, et qui se lève le plus vil des hommes. Voilà le songe que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnezzar. Toi, Belshazzar, donne l'explication. Puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner, toi tu le peux, car tu es en toi l'esprit des dieux saints. Alors effectivement, là, on ne sait pas ce qui s'est passé, si Daniel s'est retiré pour prier, ou si toutes ces choses sont passées comme ça. Mais Daniel, nommé Belshazzar, fut un moment stupéfait. Évidemment, il a tout compris. Et lorsqu'il s'agit des rois qui sont tout puissants, il faut bien corriger ses paroles, il faut bien ne pas trop parler d'une façon désagréable, puisque ça peut coûter très bien la vie. Ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit, Belshazzar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. Et Belshazzar répondit, mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. Alors effectivement, il y a toute une autre explication que le roi n'envisageait pas. Oh, peut-être au fond de lui-même, il espérait que ça soit quelque chose de plus intéressant, plus joyeux, comme c'était ces autres fois, même si ça le dérangeait un petit peu. C'est bien d'avoir quand même une petite révélation. Mais il paraît que cette fois-ci, ce n'est pas très agréable. Et Daniel ne cache pas le sujet. Il essaie de bien formuler avec sagesse. Il le dit tout simplement, verset 20, « L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux et qu'on voyait de tous les points de la terre, cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sous laquelle s'abritaient les bêtes des champs et parmi les branches duquel des oiseaux du ciel faisaient leur demeure. C'est toi, ô roi, qui est devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors, c'est vrai qu'à cette époque, Nebuchadnezzar, il avait un royaume qui était le plus grand de son monde, du monde connu de l'époque. Il était donc le roi de plusieurs nations, des gens de partout. Il a déporté beaucoup de captifs. Il a enrichi son propre royaume. C'était un moment de prospérité. C'était un moment de paix relative dans le monde. Alors oui, ça convient. Son royaume représente donc cet grand arbre qui abrite tous ces oiseaux et qui donne la nourriture à la terre. C'est excellent. Et c'est peut-être ce que aimerait entendre tout dirigeant d'un peuple. Mais le roi a vu l'un de ceux qui veillent, qui sont saints. Alors justement, ceux qui sont saints, le mot saint, la sainteté, dont la Bible est un mot clé. Nous avons chanté là tout à l'heure, Dieu est saint, tu es saint. À la base, ce que ça veut dire, c'est que on est retiré, on est séparé. Lorsque nous parlons de Dieu, de sa sainteté, il est effectivement séparé des hommes, mais c'est comme il est dit dans 1 Jean, Dieu est lumière, il n'y a pas d'ombre en lui. S'il est saint, ça veut dire qu'il n'y a pas de péché, mais il y a tout ce qui est bien, ce qui est juste. Dieu est aussi décrit comme amour. Et c'est pour ça qu'il y a cette séparation. Lui, qui n'a pas de péché, qui est tellement saint, il ne peut pas avoir justement ce qui est pécheur, ce qui est ténèbre en sa présence. Justement, pensez à ces moments peut-être dans votre vie où quand vous étiez dans la présence de quelqu'un d'important. Et est-ce que vous étiez à l'aise sans que la personne vous donne justement cette capacité d'être à l'aise? Ou est-ce que vous avez un petit peu la traque? Est-ce que peut-être vis-à-vis de cette personne un peu connue, qui a un certain pouvoir, je ne sais pas, notoriété, vous n'étiez pas tout à fait vous-même? Vous avez peut-être même gardé ce que vous avez dit. Veillez un peu sur vos paroles. Alors, c'est un petit peu la même chose, mais magnifié par mille fois. Parce que nous parlons de Dieu qui est saint. Donc, rentrant dans sa présence, la petite ombre qu'il y a, ça dissipe comme une vapeur. Souvent, les gens disent, « Oh, si je serai dans la présence de Dieu, je vais lui dire telle ou telle chose. » Ne vous trompez pas. Dieu est saint. Et même Nebuchadnezzar, le roi le plus puissant de son monde, a ressenti cette pression cette présence. Et puis, il a dit, abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-les avec des chaînes de fer et des rats. Parmi l'herbe des champs, qui soit trompé de la rosée du ciel et que son partage soit avec les bêtes des champs jusqu'à ce que 7 ans soient passés sur lui. Et voici l'explication au roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes et tu auras ta demeure avec les bêtes des champs et l'on te donnera comme des bœufs et l'herbe à manger. Tu seras trompé de la rosée du ciel et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que c'est lui qui domine et dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Autrement dit, que tu ne me tues pas après ça. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice. Et à tes iniquités, en usant de compassion envers les malheureux, en ton bonheur pourra se prolonger. Première chose, on doit féliciter Daniel. Pour dire une chose pareille, ce n'est pas du tout facile. Mais il a été appelé. De la même manière que tout chrétien et parfois appelé à dire des choses qu'on ne veut pas forcément dire. Mais est-ce que Jésus n'a pas dit, lorsqu'il nous a quand même envoyés parmi toutes les nations du monde pour faire des disciples de toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, est-ce qu'il n'a pas terminé la phrase en disant « Et je serai là avec vous ». Oui, il le sera. Et certainement, même si Daniel devait dire des choses qui offensent, il a certainement su que la présence du Seigneur était fortement sur lui aussi. Or, aujourd'hui, nous avons toujours un message qui offense, qui est la croix de Christ. La croix de Christ offense. Pourquoi ? Parce que la croix de Christ dit que l'homme, dans toutes ses bonnes œuvres, dans toutes ses bonnes actions, dans tout ce qu'il veut faire, ne suffit pas. Et ce n'est pas seulement la croix qui le dit, mais c'est la résurrection aussi. Parce que si l'homme pouvait par lui-même faire quelque chose qui puisse plaire à Dieu par ses bonnes œuvres, par ses actions, si seulement le bon Dieu pouvait, à la fin de notre vie, voir ce qu'on a fait du bien comparé avec ce qui est de mal, et puis choisir ce qu'on a fait du bien pour notre salut, si ça était quelque chose qui puisse arriver, Jésus-Christ est mort pour rien. Il est absolument mort pour rien. Pourquoi ? Parce que depuis tout temps, ça a été la même chose. L'homme, par ses paroles, par ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, il montre tant après tant qu'il est pécheur. Or, comme on a dit tout à l'heure, Dieu est saint. Mais Dieu qui est aussi amour, il a montré le chemin. D'abord, c'était des sacrifices animaux. Et ces sacrifices étaient justement pour donner une couverture pour le péché. Mais franchement, tout le monde savait que ce n'est pas parce que je viens de sacrifier un animal que Dieu pardonne les péchés que j'ai faits, mais on mettait sa foi en Dieu qui est bon. Et ça parle de celui qui vient après, celui qui est le Messie, Jésus, le Christ. C'est pour ça qu'il devait aller à la croix. La croix n'est pas une erreur. Mais ça a été prédit des siècles d'avance par les prophètes pendant longtemps. C'était le plan de Dieu pour l'humanité. Et Dieu voulait que ce roi aussi vienne à lui, qui vient à lui. Et ça nous dit quelque chose. Que ce n'est pas comme on dépeint ce Dieu coléreux, mais c'est un Dieu de compassion. Parce que s'il détestait les hommes, bah, il aurait pu très bien laisser Nebuchadnezzar et tout le reste périr dans leur folie. Mais puisqu'il fait tout ça, ça montre qu'il tend la main. Et toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, on pense ici que peut-être c'était Daniel qui écrit, parce que notez bien, ce n'est plus aux premières personnes, mais c'est au troisième. Le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. » Ça paraît un peu orgueilleux, non? Mais est-ce que nous n'avons pas à dire la même chose de temps en temps? Ah oui, grâce à moi. C'est bien ce que j'ai fait là. Ou maintenant, je peux me reposer grâce à tous mes efforts. La parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. Voyez, Dieu, il peut tout. Même pour ceux qui ne croient pas dans la Bible, ils savent très bien que un jour, le lendemain, on peut aller de la hauteur de la société à être dans les rues. Tout le monde le sait. Sauf que nous, nous comprenons que Dieu est dans les coulisses. On te chassera du milieu des hommes. Et tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et on te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme des bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux croissent comme les plumes des aigles et les ongles comme ceux des oiseaux. Autrement dit, il est devenu insensé. Il a tout perdu. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut. J'ai loué et j'ai glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux, avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu ?» En ce temps, la raison me revient. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur furent rendus, mes conseillers, mes grands me redemandèrent, je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux dont toutes les œuvres sont vraies et les voies sont justes. Qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil? C'est l'Éternel, bien sûr, qui le peut. Et on peut se dire, mais c'est bien pour Nebuchadnezzar, mais quand même, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens de nos jours, les Marduk ou les gens qui font tellement du mal dans le monde? Il est intéressant, Jésus a raconté une histoire une fois en parlant d'un homme riche et un Lazare, un pauvre, qui était près de sa porte. Et Jésus parlait de ces deux hommes qui meurent. L'homme riche qui n'avait que la volonté pendant toute sa vie, il se trouve dans le séjour des morts, alors que Lazare, c'est un pauvre, il se trouve dans le sein d'Abraham. L'homme riche, il se lamente, il crie, il dit, mais comment ça que je suis arrivé là, finalement? Il dit, Abraham, envoie Lazare pour voir mes frères, pour qu'ils n'arrivent pas dans ce lieu non plus. Et ce qui est intéressant, ce que Abraham a dit, il a dit, mais il a Moïse et les prophètes qui les écoutent. Il a dit, ben non, mais si quelqu'un revient des morts, certainement, ils vont se rendre compte. Jésus dit non. Abraham dit non. S'ils ne croient pas en Moïse et les prophètes, ils ne croiront même pas quand si quelqu'un se relève d'entre les morts. Et ça, c'est le problème ici. Si Dieu intervient dans la vie de cet homme, c'était pour le sauver, mais pas seulement lui, mais pour tous ceux qui vont entendre, comme vous aujourd'hui, vous avez entendu. Et puisque vous avez entendu, vous êtes donc responsable de tout ce que vous avez entendu. Nebuchadnezzar aussi. Vous voyez, il savait depuis un certain moment qu'il y a un Dieu dans le ciel et que ce Dieu-là régit tout. Mais il a refoulé ça pendant toute sa vie. Et puis, arrive un moment où il a cette rencontre avec Dieu. Et Dieu était quand même compatissant envers lui. Il a restauré. Mais ça n'arrive pas comme ça pour tout le monde. Mais c'est un exemple. Et peut-être vous vous dites, oui, mais si seulement Dieu me parlait comme ça. Mais ne vous rendez pas compte que en disant ceci, vous tombez dans le même schéma de ce que Jésus a décrit. Si vous ne croyez pas à Moïse et les prophètes, vous ne croyez même pas si il y avait un ange, il y avait quelqu'un qui se présente devant vous. Alors, chaque fois que nous entendons l'Écriture, le Dieu des cieux, il nous donne justement cette occasion de s'approcher de lui, parce qu'il est quand même un Dieu de grâce. Et s'il a restauré Nebuchadnezzar, c'est parce qu'il veut le bien pour cet homme, comme il veut le bien pour nous tous. Et finalement, Daniel et Nebuchadnezzar, ils rentrent quelque part dans les annales de la foi parce qu'ils ont cédé finalement à la voix de Dieu. Mais nous, aujourd'hui, nous avons toujours cette occasion et ça c'est pourquoi il est dit, aujourd'hui, si vous entendez l'Esprit, n'endurcissez pas votre cœur. Et ça, c'est bien sûr ma prière pour nous tous. Si vous entendez l'Esprit, N'endurcissez pas votre cœur. Et si vous n'avez pas encore fait, repentez-vous et croire dans le Dieu qui a donné sa vie pour vous, pour que vous soyez avec lui pour toujours. Prions.